C'était un petit peu spécial de prêcher pendant les vacances de Noël parce qu'il y a plein de choses il y a plein de sujets possibles. Il y a le sujet bien sûr incontournable qui est la naissance de Jésus. Il y a toujours la nouvelle année qui arrive, donc souvent on aborde le thème de nos bonnes résolutions ou le thème de l'avenir, choses comme ça. Et là, j'ai trouvé un passage qui parle aussi de la fin du monde, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas eu lieu, de Noël et de la nouvelle année, à la fois, donc de l'avenir. Est-ce que vous savez dans quel passage je vais lire? Est-ce que vous avez une idée? Dans quel livre je vais lire? Alors, Pierre-Jean me dit dans la Bible, oui, déjà, c'est déjà une bonne chose. bon, nous allons lire dans Apocalypse 12. Et en hommage à Mélanie qui le fait avec les enfants, nous allons imager ce texte de l'Apocalypse avec des Legos, avec ce genre d'image. Il y a un Américain qui est pas forcément chrétien d'ailleurs, mais qui a décidé d'imager toute la Bible en Lego. Et ça peut être intéressant, je trouve, d'imager l'Apocalypse en Lego, parce que ce sont des images qui nous paraissent un petit peu bizarres dans l'Apocalypse. Ce sont des révélations qui sont un peu extraordinaires. Donc avec des Lego, ça peut aussi être assez marrant. C'est pas un manque de respect, hein. Ça peut nous aider à mieux voir ce qui se passe. Donc on va lire dans Apocalypse 12. C'est un des chapitres centraux du livre de l'Apocalypse. Mais avant de lire Apocalypse 12, peut-être qu'il faut donner quelques petites infos pratiques si vous n'êtes pas initié à l'Apocalypse. Et ça peut vous servir pour Apocalypse 12, mais ça peut aussi vous servir pour toute l'Apocalypse, si vous avez envie de la lire, ou de le lire d'ailleurs. Déjà, dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Donc, c'est le livre du Nouveau Testament qui cite le plus l'Ancien Testament. Et il cite notamment l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui est le livre de Daniel. Et il cite aussi beaucoup le livre d'Ézéchiel. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut aller voir dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Ézéchiel. Deuxième chose, il y a beaucoup de références à d'autres chapitres. Ouais, merci beaucoup. À d'autres chapitres de l'Apocalypse. Donc, parfois, quand on ne comprend pas une chose, il faut soit se rappeler de ce qu'on a lu avant, soit il faut aller après pour voir, parce qu'il y a des choses qui reviennent petit à petit. Jean s'est amusé, a fait exprès de faire revenir des idées pour que ça rentre bien dans la tête de ses lecteurs. Troisième chose, il y a beaucoup d'images, des métaphores. Et avec les images, c'est un peu comme avec les paraboles, il ne faut pas forcément prendre chaque détail et l'interpréter, mais il faut le voir dans l'ensemble, il faut essayer de comprendre ce que Jean a voulu dire. En plus, ces images se superposent les unes aux autres. Et parfois, Jean dit la même chose avec 5 ou 6 images à la fois, pour dire une seule idée, mais il veut que ça se superpose pour que ça rentre bien aussi dans la tête. Et pour toutes ces raisons, nous allons voir l'essentiel d'Apocalypse 12, nous n'allons pas voir le détail, sinon on n'est pas couché. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces petites remarques, on va pouvoir se lancer dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, et nous allons expliquer verset par verset, comme ça vous n'allez pas être complètement perdu tout de suite. D'ailleurs, j'espère jamais que vous n'allez être perdu. Voilà, on va commencer. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, il faut expliquer qui est cette femme. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits à ce sujet, mais le suspense est tué dès maintenant. Cette femme, c'est le peuple de Dieu. Elle symbolise le peuple de Dieu dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. C'est tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et elle a 12 étoiles sur la tête pour rappeler sûrement les 12 tribus d'Israël ou les 12 disciples. Voilà. Donc en fait, cette femme symbolise le peuple de Dieu. Cette femme, donc, elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Cette femme est enceinte et elle est sur le point d'accoucher. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème, c'est-à-dire une couronne. Donc voilà, il y a un signe monstrueux qui arrive, c'est un dragon. Le dragon, dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Léviathan. C'est une sorte d'animal un peu légendaire qui rappelle justement le dragon. C'est une sorte de grand serpent, un peu monstrueux, on ne sait pas trop comment il est. Mais c'est sûrement de ce Léviathan dont parle Jean quand il parle de ce dragon. Il a 7 têtes. Donc ça, c'est une référence à des prophéties de l'Ancien Testament. Mais surtout, il a des cornes pour signifier sa force. C'est une extrême force. Et il a des diadèmes sur la tête pour montrer qu'il est un peu le roi du monde, si vous voulez. Il a un grand prestige. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ça nous montre sa puissance. Ça nous montre aussi son but de destruction. Voilà, il balaye les étoiles dans le ciel. On voit à quel point ce dragon est puissant. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Voilà, le suspense s'installe. La femme va accoucher d'un enfant et le dragon attend, la gueule ouverte, de dévorer cet enfant. Que va-t-il se passer ? Or, elle enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors là, il y a une référence à l'Ancien Testament qu'il faut absolument connaître. Le fait que ce garçon est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, c'est une référence au psaume 2. Et le psaume 2 fait référence au Messie. Donc là, vraiment, cet enfant que le peuple de Dieu enfante, c'est la femme, c'est le Messie qui est attendu. Et ce qu'on voit, c'est que le dragon n'arrive pas à manger le Messie, car ce Messie est enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Qui est cet enfant ? Le suspense est énorme. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Donc cette femme, le peuple de Dieu, est au désert. Alors le désert, dans la Bible, c'est à la fois un lieu vraiment pas très agréable, c'est le lieu de l'épreuve, donc via, vous rappelez les Hébreux dans leurs 40 ans dans le désert, mais c'est aussi un lieu où Dieu prend soin de son peuple. Donc c'est à la fois un lieu désagréable, mais en même temps un lieu où il y a une communion particulière avec Dieu. Et la femme est nourrie dans le désert pendant 1260 jours. On va revenir sur ce chiffre de 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Donc il y a une bataille céleste entre le diable et les anges déchus et Michel, le chef des anges de Dieu. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Donc maintenant on connaît l'identité du dragon, hein, c'est Satan, c'est le diable. Donc si vous ne l'aviez pas remarqué au départ, maintenant vous le savez. Et on remarque que dans la bataille qu'il oppose avec les anges de Dieu, avec Michel, le chef des anges, il perd. Il perd. Il a perdu. Et sa sentence, c'est qu'il est précipité du ciel sur la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et là, il y a un cantique qui commence à être entonné, et je ne vais pas le commenter parce qu'on va le commenter plus tard. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Fin du cantique. On recommence l'histoire. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Donc, vous voyez, le garçon est auprès de Dieu, mais la femme, elle est toujours là. Le peuple de Dieu est toujours sur terre. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Donc, c'est-à-dire 3 ans et demi, hein, si vous calculez bien au niveau des temps. 3 ans et demi, ce qui veut dire approximativement 1260 jours. Et approximativement aussi 42 mois. Donc, c'est le même temps que tout à l'heure. Hein. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui se répète. Le peuple de Dieu est en danger contre le dragon, mais Dieu intervient et fait quelque chose pour que le peuple de Dieu ne soit pas bouffé par le dragon. Et à chaque fois, la solution, c'est le désert. Ce lieu désagréable, mais en même temps bénéfique pour le peuple de Dieu. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Et le serpent, le dragon, ne lâche pas l'affaire. La femme est dans le désert, loin du serpent, mais lui, il vomit de l'eau pour qu'elle soit noyée dans un fleuve. Que va faire Dieu pour sauver la femme ? Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Dieu fait en sorte que la terre absorbe l'eau pour que la femme ne soit pas noyée. Ce qui pourrait peut-être rappeler le peuple hébreu qui franchit la mer des roseaux à sec. Mais là, c'est pas la terre qui avait englouti, c'est l'eau qui s'était ouverte en deux, pour laisser passer le peuple de Dieu. Et dernier verset. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. Et qui sont ses enfants ? C'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Qui sont les enfants de la femme ? Ce sont les chrétiens. Qui sont aussi un peu la femme, finalement. Et il y a un verset 18 hein, à ce chapitre 12, mais ce verset 18 est là pour faire le pivot avec le chapitre 13, donc on ne l'étudiera pas. Alors, vous avez tout compris ? Oui, voilà. Non, on va peut-être expliquer les enseignements de ce passage. Les enseignements principaux, tout d'abord, et puis après, on va voir le cantique en particulier. Et puis après, enfin, on va voir les applications concrètes pour nous aujourd'hui. Et j'espère qu'à la fin, ce sera plus clair. Donc les enseignements principaux de ce passage. Le premier enseignement, c'est qu'il y a un ennemi extrêmement féroce. Donc vous avez remarqué l'ennemi dans ce passage, c'est le dragon, celui qui est le serpent ancien, donc qui rappelle le Genèse au chapitre 3. Qui est le diable, qui est Satan. Dans ce passage, nous avons un vocabulaire très violent. Nous avons un vocabulaire guerrier. Donc il y a une bataille, il y a une victoire, il y a un ennemi qui veut absolument faire mourir la femme, faire mourir son fils, faire mourir ses fils, à la fin, qui sont les chrétiens, ses enfants. Un vocabulaire extrêmement violent. On n'est pas du tout dans le monde des bisounours. On n'est pas du tout dans un monde comme ça où tout va bien. On est dans un lieu de guerre, une scène de guerre. On voit que le diable n'est pas du tout le gars sympa qu'on peut voir parfois dans certains films. Un gars avec un collant rouge, avec un trident, qui est là pour dire aux gens « Allez, venez faire la fête avec moi ». C'est pas du tout cette image du diable qui est celle de l'Apocalypse. Le diable est quelqu'un d'extrêmement méchant, d'extrêmement féroce. Le deuxième enseignement de ce passage, c'est qu'on est face à un ennemi qui est déjà vaincu. Tous les temps dans l'Apocalypse se superposent. Donc Jean a fait se superposer tous les temps. Mais on voit que dans ce passage, Jean a voulu décrire ce que Jésus a fait sur la croix. Quand il y a une bataille entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges, et que le dragon perd et que le dragon est précipité sur terre, ça rappelle une parole de Jésus quand il envoie ses disciples, dans l'évangile de Luc, il envoie ses disciples témoigner, et que ses disciples reviennent vers lui et disent « Eh, mais même les démons nous sont soumis, on arrive à chasser des démons des gens. » Jésus a une réponse. « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Quand ses disciples lui disent « On arrive à chasser les démons en ton nom », Jésus dit « Je vois Satan être précipité sur terre, du ciel sur terre. » Déjà, Jésus voit ce qui est dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'œuvre de Jésus, l'œuvre de libération de Jésus, va faire perdre le dragon. Il va perdre son pouvoir. Il va être précipité sur terre. Il a perdu la bataille spirituelle qui l'oppose à Dieu. Le cantique le dit, c'est le Messie de Dieu, l'enfant que le dragon n'a pas réussi à manger, c'est Jésus qui a l'autorité entre ses mains. Il a perdu la bataille, ce dragon. Mais c'est un peu comme en juin 44, quand les Normands ont vu tous les bateaux américains arriver, comme quand les Allemands, dans leur bunker, ont vu tous les bateaux américains arriver. Tout le monde savait que c'était fini la guerre, que les Américains, les Anglais allaient débarquer, que les Allemands ne pourraient pas tenir très longtemps et que la victoire était là. Par contre, on savait tous, enfin, j'étais pas né, mais tout le monde savait que les Allemands n'allaient pas se laisser faire, que même si la guerre était bientôt finie, la guerre n'était pas totalement terminée, et qu'il faudrait encore livrer de nombreuses batailles contre les Allemands pour que Hitler capitule. Donc la victoire est là, c'est sûr, mais elle n'est pas encore tout à fait effective. Et c'est là l'histoire d'Apocalypse 12. La bataille spirituelle est gagnée, mais Satan est précipité sur terre et il y a encore une autre bataille qui va se livrer. Un peu la bataille des Ardennes pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'autre bataille qui va se livrer. Satan va aussi perdre, mais c'est encore une bataille à livrer, une bataille qui va faire des morts. L'ennemi résiste, mais il est déjà vaincu. Troisième enseignement, le peuple de Dieu est menacé. Et vous savez, hein, Jean a écrit l'Apocalypse au 1er siècle, et il l'a écrit pour des chrétiens qui étaient persécutés à cause de leur foi. Et là, Jean leur dit, mais si vous êtes persécutés, c'est normal. Bon, il ne leur apprend rien, parce que Jésus leur avait déjà dit, hein, vous allez être persécutés. Si vous êtes mes disciples, vous inquiétez pas. En tout cas, ne soyez pas surpris, vous allez être persécutés. Mais Jean confirme cela, le peuple de Dieu est menacé par le dragon. Comme le dragon a voulu manger Jésus, le Fils de Dieu, qui est sorti du peuple de Dieu, le dragon veut manger les autres enfants de la femme, c'est-à-dire les chrétiens. Mais ce dragon fait la guerre aux chrétiens, et c'est la signification des 3 ans et demi, hein, des 3 ans et demi dans le désert, c'est la signification des 1260 jours au désert. C'est le temps où le dragon fait la guerre aux chrétiens. Le peuple de Dieu connaît des tribulations. Mais c'est la signification des 3 ans et demi et des 1260 jours et des 42 mois qu'il y a dans le chapitre 11. C'est pour un temps limité. C'est pas pour toujours. C'est Dieu qui maîtrise le temps, ce temps de persécution. Et c'est un temps qui est délimité donc par lui, par Dieu. Quatrième enseignement, Dieu protège son peuple. Il est menacé, mais Dieu le protège. Comme les Hébreux dans le désert, Dieu prend soin de son peuple. Et le prophète Osée parle même de la période du désert avec les Hébreux comme une sorte de lune de miel entre le peuple hébreu et Dieu. Parce que le peuple hébreu dans le désert était obligé d'être totalement dépendant de Dieu. Donc le désert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un lieu d'épreuve, un lieu dur, mais aussi un lieu de communion où Dieu protège ses enfants. Voilà, on défriche ce passage. On va aller maintenant plus particulièrement dans le cantique pour savoir comment cela s'est-il passé. Parce que là, on parle un peu de manière générale, mais le cantique qui est au milieu de notre passage nous explique plus particulièrement comment les choses se sont passées. Ce cantique nous raconte comment la bataille s'est déroulée. Et dans la bataille, vous savez, il y a des armes entre les ennemis. Et on va voir, on va peut-être relire ce cantique. Il y a 3 versets, donc ça devrait être bon. Et quand on va relire ce cantique, je vous invite à repérer quelles sont les armes de Satan et quelles sont les armes des chrétiens. Voilà, ça va pas être trop difficile. Repérer les armes de Satan et les armes des chrétiens. Donc, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Mais eux, c'est-à-dire nos frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quelle est l'arme du diable? Accusation, exactement. Alors ça, c'est à la fin, donc tout en bas du texte. L'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu. La principale arme de Satan, c'est l'accusation. L'arme des chrétiens, les armes des chrétiens, Je vous entends pas. Le sang de l'agneau, oui. Ok. Et le témoignage. Voilà. Donc, vous voyez, on va commencer avec la première arme, l'accusation. Quand je dis que l'arme de Satan, c'est l'accusation, en fait, je fais un pléonasme. Parce que Satan, en hébreu, ça veut dire accusateur. Et d'ailleurs, ce que fait Satan, c'est sataner. Le verbe sataner, c'est le verbe accuser en hébreu. Donc vraiment, c'est la principale arme de Satan dans la Bible. Il accuse les membres du peuple de Dieu. Satan est un excellent procureur qui siège, peut-être de manière imagée, dans le tribunal divin et qui sévit premièrement devant Dieu et deuxièmement, en nous. Imaginons la scène. Dieu est un juste juge. Il est saint. Il ne supporte pas que le mal soit commis. Si le mal est commis, le mal doit être réparé. Et c'est pour ça qu'il a mis en place un système de sacrifice pour qu'on puisse, pour que le mal puisse tomber sur quelqu'un, c'est-à-dire sur un animal, à la place de tomber sur une personne. Pour être pardonné, il faut que le mal soit expié. Satan rappelle devant Dieu toutes les fautes des chrétiens. Et il ne ment pas, hein. Il rappelle les vraies fautes des chrétiens. Et puisque Dieu est juste, Dieu applique forcément la sentence au péché que Satan lui a dit de la part des chrétiens. Voilà la principale arme de Satan. Et c'est une arme qui marche, puisque Dieu est juste, et donc il doit faire mourir les gens qui pêchent. Or, je vous rappelle, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui ne pêche pas. Donc, nous méritons tous la mort. Voici la principale arme de Satan pour tuer tout le monde, et principalement la femme, le peuple de Dieu. Alors, quelle est l'arme pour contrer cette accusation de Satan? On l'a dit tout à l'heure, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Alors, l'agneau immolé, l'agneau du sacrifice, c'est ce qu'on appelle en théologie la substitution pénale. Nous méritons la mort à cause de nos péchés. Dieu doit nous donner la mort parce que nous avons péché. Mais Jésus, par son sacrifice, a subi la mort à notre place. Et du coup, c'est le meilleur avocat face au procureur. Satan s'avance, accuse. Le juge dit oui, c'est vrai, il y a des péchés, je dois sévir. Et là, il y a l'avocat qui s'avance, c'est Jésus. Il montre ses mains, il montre ses pieds, et il montre son côté, et il dit au juge, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour elle. Il a mis sa foi en moi. Elle a mis sa foi en moi. J'ai payé. Le juge, c'est-à-dire Dieu, regarde l'avocat, voit que le péché a été expié, voit que la sentence a déjà été donnée pour ces personnes. Il fait grâce à ces personnes. Il fait grâce aux chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus. Parce que Jésus s'est substitué à eux. Jésus est un avocat qui a gagné tous ses procès. Il faut juste mettre notre foi en lui. Et c'est ça la principale arme des chrétiens pour ne pas mourir. Deuxième arme des chrétiens, c'est le témoignage. Et en grec, le mot témoignage, enfin, c'est le mot martyr. Qui est en grec, qui signifie témoignage. Témoignage et martyr, c'est la même chose. Donc vous voyez un peu l'usage du terme. À l'époque, les chrétiens qui professaient leur foi en Jésus étaient martyrisés, étaient mis à mort à cause de leur foi. Et donc c'est grâce à leur témoignage que les chrétiens combattent le diable. Pourquoi est-ce que c'est une arme si redoutable, le témoignage des chrétiens? C'est parce que plus les chrétiens témoignent, plus il y a de gens qui connaissent Jésus, plus il y a de gens qui se connaissent Jésus, plus il y a de gens qui se convertissent à Jésus, et du coup, plus il y a de gens qui sont graciés par Dieu, et du coup, plus le diable perce de son influence. Son but, qui est de tuer un maximum de monde, est réduit. L'Église, l'Assemblée des chrétiens, pousse les gens à réfléchir, fait connaître Jésus et lutte donc activement contre le mal. Par contre, dans cette bataille, on a vu les armes, mais il y a une quatrième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un prix à payer pour les chrétiens. C'est la souffrance et la mort. Jean ne le tait pas. Les chrétiens vont prendre cher. Les premiers chrétiens ont été durement persécutés, je l'ai déjà dit, mais tous ceux qui étaient réellement chrétiens ont préféré la mort au reniement de leur foi. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils avaient grâce à leur foi en Jésus, Ils savaient que leur espérance en Jésus était largement supérieure à la souffrance ici-bas. Et donc les vrais chrétiens ne reniaient jamais Jésus, même sous la torture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette attitude-là, de préférer la mort au reniement de Jésus, c'est ce qui a beaucoup interpellé leurs contemporains et c'est ce qui a provoqué énormément de conversions. Et c'est ce qu'un des pères de l'Église a décrit dans une expression assez connue, le sang des chrétiens est une semence. Le sang des chrétiens qui sont morts est une semence pour provoquer d'autres conversions. J'espère que ce chapitre 12 est un peu plus clair pour vous maintenant. On va voir quelles sont les conséquences pour nous aujourd'hui. La première conséquence, c'est que Satan est à nos trousses. Si vous êtes chrétien, si vous avez mis votre foi en Jésus, c'est la mauvaise nouvelle. Satan vous en veut beaucoup. Satan veut votre perte. Et ses méthodes sont très variées pour causer votre perte. Notre ennemi est bien réel. Il est dangereux, il est vorace. L'apôtre Pierre dit que Satan rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. La moindre baisse d'attention spirituelle, le moindre relâchement, et il nous fait pécher. Il nous éloigne de notre Père. Il connaît nos faiblesses, à chacun. On n'a pas les mêmes, mais il les connaît. La peur, le manque de confiance en soi, la violence, le manque de maîtrise de soi, la paresse, etc. Vous connaissez les vôtres, je connais les miennes. Il sait sur quel bouton appuyer, de quelles circonstances se servir pour nous faire chuter et pour nous écarter de notre mission de servir le Seigneur. Il sait comment faire. Cet ennemi est bien réel. Alors, faisons gaffe. Rappelons-nous de cela. Satan veut notre perte. Ne soyons pas comme des gens naïfs. Soyons sur nos gardes. Deuxième chose, notre foi en Jésus nous rend indestructibles, nous protège. Parfois, nous entendons une petite voix qui pourrait nous dire « Tu crois que tu as un comportement chrétien, là? Mais tu es complètement nul. Espèce d'hypocrite. Tu viens au culte le dimanche, mais le reste du temps, tu n'es pas si chrétien que ça. Tu es un peu comme les autres, finalement. Dieu ne t'aime pas. » Certains chrétiens entendent cette petite voix. « Dieu ne t'aime pas. » Laisse tomber, essaie pas de plaire à Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu sais, tu vas chuter, de toute façon, tu finis toujours par chuter. Ça fait déjà 3453 fois que tu fais ce péché. Tu demandes pardon à chaque fois, mais tu prends Dieu pour un imbécile. Tu n'y arriveras jamais. Tu as déjà chuté tellement de fois, tu n'y arriveras pas. Regarde les chrétiens autour de toi. Comparé à eux, tu es complètement nul. Tu n'es pas digne que Jésus soit mort pour toi. Je connais des chrétiens qui entendent cette petite voix. Peut-être que vous l'entendez, cette petite voix. Une petite voix accusatrice. Une petite voix qui dit des choses pas si fausses que ça, finalement. Une petite voix qui appuie là où ça fait mal. Cette voix, c'est celle de notre ennemi. Cette voix, c'est celle de l'accusateur qui nous satane, qui nous accuse. Nous ne devons plus écouter, nous ne devons plus croire cette petite voix diffamatrice, parce que si elle nous rappelle nos vraies fautes, elle oublie de nous rappeler aussi notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Si nous avons mis notre foi en Jésus, on ne peut plus nous accuser. Nous sommes pardonnés. Nous, à chaque fois que nous revenons devant Jésus, nous lui demandons pardon. À chaque fois que nous lui demandons de l'aide, nous retrouvons cette communion avec Dieu. N'en doutons pas, n'en doutons pas. Si nous avons changé de statut, si nous sommes devenus enfants de Dieu, comportons-nous avec les qualités d'enfants de Dieu et non avec la médiocrité de ceux qui sont encore sous l'esclavage du péché. Nous sommes libres, nous avons été libérés par Jésus, comportons-nous comme des gens libres. Troisième chose, quand nous nous taisons, Satan gagne. Vous savez, la deuxième arme des chrétiens, c'est de témoigner. Ce qui veut dire que quand les chrétiens ne témoignent pas, c'est une arme en moins. Nous avons souvent peur de témoigner de notre foi. Et souvent, nous avons un raisonnement qui consiste à dire « J'ai peur de parler de ma foi, car si je m'y prends mal, premièrement, je vais être ridicule. J'ai pas envie d'être ridicule. Et deuxièmement, ça va pas donner envie aux personnes autour de moi de croire en Jésus. Or, c'est un mauvais raisonnement. Car ceux qui sont autour de nous et qui ne croient pas en Jésus sont déjà sous l'emprise du diable. En fait, il n'y a pas pire situation que de ne pas croire en Jésus. Donc en fait, témoigner ne peut rien faire de pire. Vous ne pouvez pas aggraver leur cas. Vous ne pouvez que les rapprocher de Dieu en témoignant de ce que Dieu a fait pour vous. Alors bien sûr, quand je dis ça, ça n'encourage pas à dire n'importe quoi et à faire les choses à la légère. Hein. Voilà. Il y a des moments pour le faire, il y a des mots pour le faire, il y a une attitude à adopter pour témoigner. Mais je veux vraiment vous encourager. Témoigner de Jésus, c'est un acte d'amour que vous accomplissez pour vos proches. C'est un acte d'amour que vous accomplissez pour Jésus. Et c'est un acte qui fait mal à notre ennemi. Satan veut que nous nous taisions, car comme ça, nos proches n'ont aucune chance de connaître le bonheur d'être avec le Seigneur Jésus. Faisons confiance au Seigneur, le maître de la moisson, et il créera les conditions, les occasions. Il mettra les bons mots dans notre bouche, il préparera le cœur de nos interlocuteurs. Combattons le bon combat. Annonçons l'évangile qui nous fait vivre. Combattons. Ce n'est pas une option. C'est le travail normal des chrétiens. Et enfin, peut-être le résumé de tout cela. Pour bien combattre, il faut sortir de sa zone de confort. Pour participer à cette guerre qui est déjà gagnée et vivre des moments spirituels extraordinaires avec Dieu et avec nos frères et sœurs, il faut, entre guillemets, simplement se sacrifier en recherchant les intérêts du Seigneur Jésus et non plus les nôtres. On appelle ça la consécration. Alors, êtes-vous prêts pour la lutte ? Sortons de notre zone de confort. Toutes ces choses matérielles, toutes ces habitudes, toutes ces peurs qui nous encroûtent, qui nous engluent, toutes ces choses qui nous rendent inactives, inactifs. Prenons des risques pour l'avancement du royaume de Dieu et regardons notre Seigneur agir. Regardons-le faire des miracles. Soyons émerveillés par ce qu'il va faire parmi nous en 2013, pour les 10 prochaines années, parmi nous et autour de nous. Tendons nos mains vers lui, regardons vers lui, soyons émerveillés par lui. Amen.